Silcast présente la revue de presse thème du jour géopolitique avec Alex et Marc. Bonne écoute.
Bon, on reprend là où on s'est quitté sur le dossier iranien. Le cessez-le-feu d'avril tenait à un fil et ce week-end, le fil a cassé. Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth dimanche, Téhéran riposte avec des missiles balistiques et lundi, Trump poste sur Truth Social « Stop shooting ». Et magie, ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête pour cette fois.
C'est ça la nouveauté du jour. Ce n'est pas une reprise totale de la guerre. C'est un mini-épisode contenu en 36 heures. Mais le Guardian le souligne bien dans son papier sur Trump et Netanyahou. Ce qu'on voit là, c'est la fragilité structurelle du dispositif. Trump a dit au Financial Times « Je tire toutes les ficelles ». Et une semaine avant, il aurait engueulé Netanyahou au téléphone en lui disant « Tout le monde te déteste ». L'humiliation publique a tenu 6 jours.
6 jours. C'est ça qui me frappe. Trump qui se présente en médiateur de la guerre qu'il a lui-même lancée en février, c'est déjà cocasse. Mais Netanyahou, qui désobéit dans la semaine parce qu'il a une élection en octobre et qu'il a besoin de montrer du muscle, ça résume tout le problème. Les deux ont des calendriers politiques opposés.
Exactement. Trump veut sortir du bourbier avant les midterms parce que le détroit d'Hormuz, toujours bloqué, pèse sur les prix et que les démocrates peuvent reprendre une chambre. Netanyahou, lui, n'a aucun trophée à présenter. Ni Iran neutralisé, ni Hezbollah démantelé, ni Hamas éliminé. Donc il a besoin de continuer à frapper. Ce sont deux logiques électorales incompatibles, maintenues ensemble par une dépendance sécuritaire. C'est instable par construction.
Et côté Téhéran, le Guardian a un papier intéressant sur le débat interne. Il y a une faction qui pousse à enterrer les négociations, qui pense que le blocus d'Hormuz leur donne enfin un levier, et une autre, autour des conseillers de Rouhani, qui dit « Nos actifs gelés, les sanctions, l'économie au bord du gouffre, il faut signer ». Le porte-parole Bagaei joue les deux partitions en même temps.
Et c'est rationnel de sa part. Il cite La Fontaine, le lion amoureux qui se fait couper les griffes, message aux alliés régionaux de ne pas désarmer prématurément. Mais en parallèle, il confirme que le dialogue indirect via le Pakistan continue. C'est la position classique d'un régime qui négocie sous pression. On garde l'escalade comme option et on négocie en même temps. Ce qui m'inquiète davantage, c'est l'entrée des Houthis dans cette séquence. Quand un acteur secondaire élargit le théâtre, ça complique mécaniquement toute désescalade.
Les Houthis qui menacent à nouveau les navires en mer Rouge. Oui. Et là, on entre dans ce qui fait vraiment mal à l'économie mondiale. Marc, sérieusement, est-ce que tu vois une issue diplomatique réaliste là-dedans? Parce que les points durs n'ont pas bougé depuis avril. Hormuz, le programme nucléaire iranien, les sanctions, le Liban, que Téhéran veut inclure et que Washington refuse.
Je vois une issue partielle, pas une issue propre. Le scénario réaliste, c'est un accord minimal Trump-Iran, sanctions allégées contre engagement nucléaire vérifiable, réouverture d'Hormuz et le dossier libanais laissé pourrir séparément. Ce n'est pas glorieux, mais c'est ce qui peut être signé. Le vrai problème, c'est que Netanyahou a intérêt à saboter précisément ce type d'accord, parce qu'un deal US-Iran sans le volet Hezbollah le laisse sans victoire avant son scrutin.
Donc on est dans un équilibre où le principal allié des États-Unis a un intérêt actif à faire échouer la diplomatie américaine. C'est vertigineux. Bon, changeons d'angle, parce qu'il y a un autre front impérial qui craque ce week-end. Le Grand Continent publie un papier sur les législatives arméniennes de dimanche, victoire confortable du contrat civil de Pachinian malgré un dispositif russe d'ingérence assez impressionnant.
Et c'est le troisième échec russe consécutif sur ce registre. Moldavie en 2025, Hongrie début 2026, Arménie maintenant. Plus l'incapacité à sauver le Venezuela et l'Iran comme alliés. Le Grand Continent parle d'une perte d'empire, et je crois que le mot est juste, à condition de le qualifier. Ce n'est pas l'effondrement d'un empire, c'est l'érosion continue d'une zone d'influence post-soviétique que Moscou pensait acquise.
L'article détaille le dispositif. SVR, FSB sous couverture diplomatique, Rosotrudnicheztvo, Rosatom et surtout Storm 516, le réseau de désinformation lié au renseignement militaire. Ils ont sorti une fake news selon laquelle Pachinian aurait détourné une aide française pour s'acheter une villa à Marseille. Démenti, mais relayé massivement. Et ça n'a pas pris.
Ça n'a pas pris pour une raison simple. Pachinian a un bilan concret que les électeurs peuvent évaluer. L'apaisement avec l'Azerbaïdjan, douloureux, mais réel. La demande d'adhésion à l'UNMOE. Quand la désinformation se heurte à une trajectoire politique cohérente et lisible, elle perd en efficacité. C'est aussi la leçon moldave.
Mais Marc, la question que pose l'article est sérieuse. Moscou va-t-elle se contenter d'un camouflet électoral ou bien on glisse vers un scénario ukrainien? Plusieurs responsables russes ont déjà averti les Arméniens contre cette tentation. Tu y crois, toi, à une guerre russe contre l'Arménie dans les années qui viennent?
À court terme, non. La Russie est engagée en Ukraine. Ses capacités de projection sont limitées et l'Arménie n'est pas frontalière au sens où l'Ukraine l'était. Mais le précédent ukrainien a montré que la doctrine russe accepte le coût élevé pour préserver ce qu'elle considère comme son glacis. Donc je dirais, pas de guerre ouverte demain, mais une intensification des opérations hybrides, sabotage économique, pression sur la diaspora, instrumentalisation en Azerbaïdjan possiblement. C'est plus insidieux qu'une invasion.
Et il y a un point que l'article ne creuse pas trop, mais qui me semble crucial. L'adhésion à l'UPRR impliquerait une sortie de l'Union économique eurasiatique. Économiquement, l'Arménie est très dépendante de la Russie, transfert des travailleurs migrants, énergie, commerce. Le coût de transition va être brutal. Et Bruxelles n'a pas exactement été rapide à intégrer qui que ce soit ces dernières années.
C'est le point faible du récit émancipation européenne. L'UPRR promet lentement et livre peu. La Russie punit vite et fort. Pour que Pachinian tienne sa trajectoire, il faudra que l'Union mette de l'argent et des garanties sur la table, et pas seulement des communiqués. C'est exactement le débat qu'on a eu sur la Moldavie. Sans soutien matériel substantiel, ces victoires électorales restent réversibles.
Et pour boucler la boucle géopolitique, parce que tout se tient, le Grand Continent publie aussi un papier sur le boom économique nord-coréen depuis 2023. Croissance de 3,7% en 2024, 10 000 logements construits à Pyongyang l'an dernier, plus qu'à Los Angeles. Pourquoi? Le commerce avec la Russie et la Chine. Pyongyang fournit des obus et des soldats à Moscou, qui paient en pétrole, en nourriture et en technologie militaire.
Et là, on touche à quelque chose qui dépasse le cas nord-coréen. Le régime de sanctions internationales contre Pyongyang, construit patiemment depuis 15 ans, est en train d'être détricoté par la guerre en Ukraine. La Russie a basculé du camp des États qui font respecter ces sanctions au camp de ceux qui les contournent activement. Et la Chine a multiplié son commerce bilatéral par 3 entre 2022 et 2025.
Donc, Kim Jong-un est le bénéficiaire collatéral de l'invasion russe, avec un nouvel hôpital, une station balnéaire à Wonsan et un transfert de savoir-faire militaire russe qui va peser longtemps. Ce n'est pas juste de l'argent qui rentre, c'est une remise à niveau industriel et militaire.
Et ça ferme une parenthèse stratégique qu'on croyait stable. Pendant 20 ans, on a pensé que la Corée du Nord finirait par s'asphyxier économiquement et négocierait. Cette hypothèse est morte. Maintenant, Pyongyang a des partenaires fiables, une rente de guerre et une dépendance moindre vis-à-vis de Pékin seul. C'est un acteur qui se renforce structurellement.
Bilan de la journée. Donc, Trump tient le cessez-le-feu israélo-iranien à bout de bras, avec une autorité qui s'effrite. La Russie perd ses élections de proximité, mais s'enracine économiquement en Asie du Nord-Est, et l'ordre des sanctions, hérité de l'après-guerre froide, se délite sur tous les fronts.
Trois fronts, une même tendance. Les architectures de contention construites depuis 20 ans, sanctions, ceasefire, zones d'influence, se révèlent toutes plus fragiles qu'on ne le pensait. On verra demain si le calme tient entre Tel Aviv et Téhéran.
On se retrouve demain pour la suite.